Saga présente Les Visionnaires 1933-1943 de Wolfram Eilenberger, lu par Sylvie Pardon. À Venla et Kaïsa, femmes en chemin. Croyais-tu peut-être que je dusse haïr la vie, fuir dans les déserts? Johann Wolfgang von Goethe, Prométhée, 1789. Traduction de Jacques Porchat, 1860. Fool me once, fool me twice. Are you death or paradise? Billie Eilish, No Time to Die, 2020. Première partie. Étincelle, 1943. Beauvoir en verve, veille en transe, Rand hors d'elle et Arendt en plein cauchemar. Le projet. À quoi bon commencer si l'on doit s'arrêter? Plutôt pas mal pour un début. Oui, c'était bien le sujet de cet essai. La tension entre la finitude de notre existence et l'infinitude manifeste du monde. Un abîme qui, à peine la voix de la réflexion s'éveillait-elle, menaçait de livrer à l'absurde chaque plan, chaque projet, chacun des objectifs qu'on s'était fixés. Peu importe qu'il s'agit alors de conquérir la terre entière ou simplement de cultiver son jardin. En fin de compte, cela revenait au même. Sinon un autre, ce serait le temps lui-même qui précipiterait un jour dans le néant et l'oubli l'œuvre accomplie, comme si elle n'avait jamais été. Un destin aussi certain que notre propre mort. Pourquoi dès lors faire quelque chose plutôt que rien? Ou mieux, pour reprendre l'approche classique d'un questionnement en trois parties, quelle est donc la mesure d'un homme? Quel but peut-il se proposer? Et quels espoirs lui sont permis? Oui, ça se tenait. Elle avait enfin trouvé la bonne structure. Depuis la table où elle était assise, à l'étage du café de Flore, Simone de Beauvoir observait les passants. Ils étaient là, les autres. Chacun et chacune avec une conscience propre, cheminant avec leurs peurs et leurs soucis bien à eux, leurs projets et leurs espoirs. Tout comme elle. Elle était une parmi des milliards, et cette pensée la faisait chaque fois frissonner. Beauvoir n'avait pas accepté d'emblée, notamment à cause du sujet proposé par l'éditeur, Jean Grenier, pour un recueil d'essais sur les tendances idéologiques les plus influentes de l'époque, il lui avait demandé un texte sur l'existentialisme. En réalité, ni Sartre ni elle n'avaient jusque-là revendiqué ce terme. C'était une invention récente des rubriques littéraires, rien de plus. Avec une thématique pareille, on atteignait des sommets d'ironie. Car s'il y avait bien un leitmotiv qui avait guidé son chemin et celui de Sartre au cours des 10 années passées, c'était le refus catégorique de se glisser volontairement dans les cases prévues par d'autres. Une forme de révolte qui avait été au cœur de leur projet, elle était encore aujourd'hui. Dans la force de l'âge. Que les autres parlent d'existentialisme, si cela leur chantait. Elle prendrait soin quant à elle d'éviter ce terme. Elle se contenterait plutôt de faire ce qui, depuis toujours, depuis les premières pages noircies dans ses journaux de jeune fille, lui paraissait le plus important. Se consacrer avec la plus grande attention possible aux questions qui hantaient son existence et dont elle ne connaissait pas encore les réponses. Étrangement, les questions étaient les mêmes aujourd'hui qu'hier. À commencer par la question du sens que pouvait avoir sa propre existence et celle de l'importance des autres pour notre vie. Ce qui avait néanmoins changé en ce printemps de l'année 1943, c'est que Simone de Beauvoir, pour mener cette réflexion, se sentait plus libre et plus sûre d'elle que jamais. Au plus fort d'une guerre mondiale. Au cœur de sa ville occupée. Malgré les cartes de rationnement et les problèmes d'approvisionnement, malgré la privation chronique de café et de tabac qui poussait Sartre, désespéré, à ramper chaque matin sur le